Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Le monde est entré dans une guerre sanitaire et l'Afrique concentre désormais toutes les inquiétudes. Pendant que la crise du Covid-19 met en miettes les économies des pays développés, elle place les gouvernements des 47 pays les moins avancés face à un dilemme impossible à résoudre. En imposant un strict confinement, ils évitent des ravages sanitaires et humains mais mettent tout autant en danger les populations qui se trouvent dans l'incapacité de gagner leur vie. Les pays les moins avancés ne sont pas les seuls concernés dans le monde. Environ 1,3 milliard de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, selon les données du Programme des Nations Unies pour le développement. Parmi elles, 50% habitent en Asie du Sud-Est et 30% en Afrique. Ces économies, déjà très fragiles, subissent actuellement les contre-coups de la baisse du baril pour les exportateurs d'hydrocarbures ou le ralentissement de la demande des pays industrialisés pour les pays exportateurs ou très dépendants de l'extérieur. Regard sur les défis que pose à l'Afrique la pandémie du Covid-19 avec nos invités par téléphone. Serge Mikhaïlov, chercheur associé à l'IRIS et auteur de plusieurs ouvrages dont Afrikanistan, l'Afrique en crise, va-t-elle se retrouver dans nos banlieues? Point d'interrogation. Bonjour.
Bonjour.
Et Thierry Vircoulon, coordinateur de l'Observatoire pour l'Afrique centrale et australe de l'Institut français des relations internationales. Bonjour.
Bonjour Madame Chatin.
Mi-février, Bill Gates, dont la fondation est consacrée à la lutte contre les épidémies en Afrique, avait prévenu, dans l'indifférence générale, que sur le continent africain, le Covid-19 serait plus grave qu'en Chine et pourrait causer la mort de plus de 10 millions de personnes. Peu de gens ont pris au sérieux ce sombre avertissement, comme les Européens qui ont longtemps vu le coronavirus comme une affaire chinoise. Les Africains s'en sont cru épargnés. Or, à peu près 50 pays africains sont aujourd'hui touchés par le coronavirus et ce n'est pas prendre beaucoup de risques que d'affirmer que l'Afrique est sans doute ce continent où le confinement est impossible. Quelle réflexion à chacun cette pandémie et le bouleversement du monde qu'elle provoque vous inspire-t-elle? Thierry Vercoulon.
Pour le moment, j'ai l'impression que l'épidémie est plus un révélateur qu'un game changer. Elle révèle toutes les fragilités de l'Afrique en même temps. Et on voit fragilité évidemment des systèmes de santé, fragilité aussi des économies. Et puis, sans doute demain, fragilité des systèmes politiques.
Serge Mikhaïlov.
Alors je crois qu'il faut bien se rendre compte que l'Afrique a quand même, un atout dans cette crise, c'est que c'est un continent extrêmement jeune. Et le nombre de personnes qui ont plus de 65 ans, c'est simplement 47 millions, si vous voulez, alors qu'en Europe, on doit être dans les 150 millions à peu près de personnes de plus de 65 ans. Donc c'est un continent dans lequel le Covid-19 va frapper, mais peut-être que finalement, l'impact en termes de mortalité sera moins élevé que dans un autre continent. Donc ça, c'est la dimension, positive d'un continent très très jeune. Ceci dit, il faut bien voir également que l'Afrique, c'est le continent de la promiscuité. Les gens vivent les uns sur les autres en ville, dans des conditions vraiment extrêmement difficiles. On compte entre 5 000 et 10 000 habitations par kilomètre carré dans certaines zones des villes africaines, du côté de certains bidonvilles. Donc on voit bien qu'on ne peut pas envisager de condamner les gens à vivre entassés dans les bidonvilles sans pouvoir sortir, d'autant qu'ils ont besoin de sortir tous les jours pour gagner de quoi manger tous les jours.
Alors, population jeune, Serge Mikhaïlov vient de le souligner, Thierry Vercoulon, il n'en demeure pas moins que très souvent, les gens des pays pauvres ont souvent une santé fragile, un système immunitaire particulièrement faible en raison de la malnutrition, de la tuberculose et aussi du VIH.
Oui, tout à fait. Il y a en effet un risque d'accumulation de ces faiblesses physiologique qui peut en effet amplifier l'épidémie du coronavirus. Bon, je suis pas épidémiologue pour le dire, mais en tout cas, ce qui est aussi un point positif, c'est que l'épidémie arrive plus tard en Afrique par rapport évidemment à la Chine et à l'Europe, et que les gouvernements africains, nombreux gouvernements africains, ont une vitesse de réaction qui était plutôt bonne en prenant des mesures préventives dès l'apparition des premiers cas. Et ça, c'est aussi un élément positif à noter.
Alors, est-ce que l'on peut penser que l'expérience du virus Ebola peut servir à l'Afrique, Serge Mikhaïlov, dans la gestion du coronavirus?
Alors, ces pays, si vous voulez, ont bien réagi finalement au virus Ebola. Sur l'Afrique de l'Ouest, il y a eu environ 12 000 personnes sont mortes du virus Ebola. Mais globalement, les gouvernements ont relativement bien réagi avec l'appui de l'OMS et de différentes fondations. Mais il faut voir que la rapidité d'expansion du virus en question, je pense, va être beaucoup plus importante et risque de noyer un peu les systèmes de santé africains dans un contexte où les ressources financières pour, je dirais, tenter d'éviter la catastrophe économique et la catastrophe sanitaire vont manquer dans la plupart de ces pays. Il ne faut pas oublier que ces pays ont vu leur dette s'accroître de façon considérable, d'environ 19 à 20% sur les 8 dernières années.
Alors, on reviendra sur les questions économiques. Je poursuis juste sur l'aspect sanitaire. Thierry Vercoulon, on peut juste rappeler que le virus Ebola avait fait en 2014-2015 11 000 morts au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. L'autre question sur le plan sanitaire, c'est le sous-équipement de l'Afrique subsaharienne qui ne compte que un médecin et 10 lits d'hôpital pour 10 000 habitants, là où il y en a 36 médecins et 51 lits dans l'Union européenne.
Oui, tout à fait. Si vous regardez le Global Health Security Index de l'université Johns Hopkins, qui évalue les capacités sanitaires des pays, vous verrez que les pays africains sont soit en rouge, soit en orange sur cet index. Parce qu'en effet, les systèmes sanitaires sont extrêmement défaillants parce qu'ils ont été sous-financés aussi depuis très longtemps. Au Cameroun, en fonction des années, le budget de la santé varie entre 3,5 et 5,5% du budget, alors que la recommandation internationale est à 15%. Et ça, c'est quelque chose d'assez généralisé. En Afrique du Sud, qui est le pays qui a le système hospitalier le plus robuste du continent, ils estiment que quand ils atteindront 80 000 cas, leur système hospitalier sera submergé. Donc, en effet, il y a très peu de capacité de prise en charge des malades. Donc, tout ce qui reste à l'Afrique, c'est la prévention.
Serge Mikhaïlov.
Ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de pathologies ont mobilisé des ressources financières significatives, en particulier pour le VIH. Mmh. Mais la façon dont l'aide internationale est intervenue dans ces pays est une façon très particulière, s'attaquant par exemple au VIH et négligeant complètement le système de santé global, c'est-à-dire tout le réseau d'hôpitaux principaux, d'hôpitaux secondaires et puis de postes de santé dans les villages. Ce qui aujourd'hui va être même, je dirais, un handicap considérable.
J'ajouterais qu'il y a eu en effet ces programmes de prise en charge de maladies spécifiques. Et puis après, il y a eu aussi la politique de santé primaire qui consistait à justement renforcer l'offre de soins de base, notamment pour tout ce qui concernait ce qu'on appelle la santé reproductive, etc. Et donc, il y a eu aussi des efforts qui ont été faits sur l'offre de santé de base, mais le niveau hospitalier, en effet, est très largement sous-financé et sous-équipé. Et donc, ça aura eu évidemment un impact majeur dans la gestion de cette crise.
Et l'UNICEF, cette semaine, s'est également inquiété du fait que le Covid-19, qui pousse des milliards de personnes au confinement, empêche la vaccination de nombreux enfants, et pas seulement des enfants, mais probablement aussi des adultes, avec des conséquences désastreuses dans certains pays. Les questions économiques que Serge Mikhaïlov a commencé d'aborder, le contexte économique dans lequel le Covid-19 atteint aujourd'hui l'Afrique, c'est une demande mondiale affaiblie, une chute des prix du pétrole, un tourisme réduit à zéro, des investisseurs étrangers qui ont retiré d'importants montants, on évoque 83 milliards de dollars depuis le début de la crise, et puis bien sûr un ralentissement de la demande des pays industrialisés pour les pays exportateurs ou très dépendants de l'extérieur. Un commentaire sur cette situation économique, Serge Mikhaïlov,
et ouais, on abordera... La totalité des produits d'exportation africains, on a vu les prix plonger, c'est bien pour le pétrole, mais c'est vrai aussi pour le cuivre, c'est vrai pour le cacao, c'est vrai pour la totalité des produits d'exportation. Donc ça pose évidemment un problème terrible pour des pays qui ont vu leur dette, je dirais, augmenter de façon très, très importante. Et on ne voit pas encore une mobilisation des donateurs avec des ressources d'une ampleur suffisante pour compenser les pertes de recettes budgétaires. Donc sur ce plan-là, on s'interroge un petit peu, d'autant que beaucoup de ces pays ont fait l'objet de remises de dettes. Donc sur le plan, de la doctrine, il est extrêmement difficile de faire des abandons de dettes dans un contexte de ce genre-là. On sera obligé de le faire au dernier moment. Donc je pense que les pays riches vont attendre un petit peu trop longtemps avant de prendre des mesures très courageuses qui s'imposent dans ce genre de situation.
L'Afrique qui doit, affirment les experts, devenir la priorité absolue de la communauté internationale avec un investissement massif, souligné cette semaine le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'ONU estime à 3 000 milliards de dollars la somme nécessaire tant pour combattre l'épidémie que pour soutenir l'économie des pays en voie de développement. Thierry Vercoulon.
Comme je disais tout à l'heure, c'est un révélateur de ce qui se passe depuis longtemps. Le fait que beaucoup d'économies africaines soient dans la dépendance, c'est-à-dire qu'elles sont surtout des économies d'exportation de matières premières brutes, fait qu'elles sont extrêmement sensibles aux chocs exogènes. Et donc le plongeon du prix du baril, la chute du prix des minerais, etc., les impacte durement. J'aurais tendance à dire que c'est une leçon qu'on connaissait déjà. Ces économies ayant été incapables de se diversifier, ayant été incapables de construire leur propre base industrielle, sont restés dans cette économie de rente extravertie. Et donc, dès qu'il y a un retournement de conjoncture, elles sont affectées très fortement. L'autre problème important que je vois sur l'économie, c'est la question de l'approvisionnement alimentaire. Il y a pas mal de pays qui sont aussi dans une situation de dépendance pour leur approvisionnement alimentaire. Et donc, ça va être assez difficile pour eux et surtout pour leur population. Et il faut bien voir qu'il y a des pays où les gens, dès qu'il y a eu cette annonce d'épidémie, les premiers cas qui sont arrivés, les premières mesures gouvernementales, on a vu une flambée des prix des denrées alimentaires, par exemple à Kinshasa. Et donc, ça pose de graves problèmes pour une population qui est dans une économie de survie, c'est-à-dire n'ont aucune capacité de réserve financière.
Alors, flambée des prix alimentaires, il y a trois institutions multilatérales qui ont lancé l'alerte cette semaine. Il y a l'OMS, la FAO et l'Organisation mondiale du commerce. Comme le soulignait à l'instant Thierry Vercoulon, l'Afrique dépend beaucoup des importations, y compris sur les denrées de base. Elle est donc très exposée au risque de pénurie et d'augmentation des prix. Et puis, les inquiétudes portent également sur le ralentissement de la circulation des travailleurs de l'industrie agricole et alimentaire qui bloque de nombreuses agricultures occidentales et des retards aux frontières pour les conteneurs de marchandises qui entraînent un gâchis de produits périssables et une hausse du gaspillage alimentaire. Tout cela, Serge Mikhaïlov, est incroyable quand on voit combien tout est absolument lié.
Quand on prend une ville comme Kinshasa, dont la population, on n'est pas très sûr si elle fait 10 millions ou 12 millions d'habitants, et qu'on demande à cette population de se confiner, de rentrer chez elle, de ne pas bouger. Je veux dire, la plupart de ces gens-là, au bout de 2 jours, ils n'ont plus de ressources monétaires, ils n'ont plus moyen d'acheter quoi que ce soit. Donc, on est vite dans des situations qui sont dramatiques et qui ne permettront pas de reproduire dans ce type de contexte, je dirais, les stratégies qui ont été mises en Europe tout récemment pour lutter contre le Covid-19. Avec cela, quand on voit que, le débarquement des conteneurs va être beaucoup plus lent, que l'embarquement des matières premières va être également probablement ralenti parce que les pays importateurs des matières premières africaines vont laisser s'accumuler ces matières premières dans les ports africains, eh bien, on se dit qu'il va y avoir des situations qui vont être assez dramatiques très très rapidement.
Et vous pensez à quoi ?
Moi, je pense quand même à des mouvements de population et des mouvements politiques, des émeutes possibles dans les grandes villes qui vivent essentiellement quand même à la fois de la circulation des produits agricoles locaux et de l'importation de produits agricoles d'exportation. Donc je pense que les gouvernements vont être extrêmement attentifs à toute tension politique sur ce plan-là.
Thierry Vercoulon, d'où la nécessité d'aider l'Afrique à la hauteur de ses besoins. Quels sont les risques si elle ne l'était pas aidée à la hauteur de ses besoins ?
L'Afrique ne peut pas être aidée, n'a jamais été aidée à la hauteur de ses besoins. Donc là aussi, ça ne va pas être un grand changement. Mais pour revenir sur ce que disait Serge Mikhaïlov tout à l'heure, on a vu avec le cas de Kinshasa que les autorités, en effet, ont dû arbitrer entre le risque d'émeute dû justement aux questions alimentaires et celui du confinement. Elles sont initialement, les autorités congolaises avaient décidé de faire un confinement et puis elles sont revenues dessus parce qu'elles ont eu peur qu'il y ait des émeutes à Kinshasa. Donc ça montre vraiment à quel point la situation peut être tendue. Je crois qu'il ne faut pas s'illusionner. Dans la situation actuelle, l'Europe et les États-Unis sont frappés de plein fouet par une épidémie et sont eux-mêmes plongés dans une crise économique sérieuse. Donc il ne faut pas s'illusionner sur le fait qu'ils se porteront très rapidement au secours de l'Afrique. Chacun essaye de gérer les choses à son niveau et on voit toutes les difficultés qu'on a à le faire en France. Donc il ne faut pas s'illusionner sur tout d'un coup une aide massive qui viendrait sauver l'Afrique, entre guillemets, puisque l'aide n'a jamais sauvé l'Afrique.
Alors, il ne faut pas s'illusionner sur l'attitude des États-Unis et de l'Europe particulièrement frappée. On peut rappeler tout de même que la Commission européenne a fait de la coopération avec l'Afrique une des priorités des 5 années à venir. C'était avant l'épidémie. J'aboutis maintenant à cette question très géopolitique. La Chine occupe le terrain en se rendant indispensable, voire centrale. Elle gagne en influence avec des livraisons de matériel médical. Les pays africains se souviendront de qui les a aidés, Serge Mikhaïlov?
Oui, alors il y a un problème pour les Occidentaux qui sont actuellement eux-mêmes plongés dans leur propre réponse à la crise. Et on voit bien que si l'aide occidentale n'intervient pas de façon massive et très rapidement, la Chine, sur le plan géopolitique, va véritablement prendre la place de premier interlocuteur de l'Afrique. Alors là, je pense que des institutions comme la Banque mondiale et les institutions d'aide de l'Union européenne vont être très actives. Et quand on parlait tout à l'heure de 3 000 milliards de besoins de financement à brève échéance, les trois institutions que vous aviez citées, aucune n'a des ressources financières significatives. Donc c'est encore une fois aux institutions traditionnelles que sont le Fonds européen de développement, la Banque mondiale, etc. d'intervenir, mais elles ne pourront jamais intervenir à la hauteur des premiers milliards évoqués. Alors ce qu'il faut voir également, c'est la montée également de la xénophobie dans certains pays africains, où l'on considère que cette maladie est une maladie qui a été importée par les Occidentaux. Et on commence à voir non seulement des attaques individuelles, mais également des mouvements de petites foules contre les Occidentaux dans la rue, en disant « c'est votre maladie, c'est vous qui nous avez apporté ça ». Et c'est assez inquiétant sur ce plan.
Thierry Vercoulon, en guise de conclusion.
Oui, pour revenir sur la Chine, là aussi, je crois qu'on reste dans la continuité, c'est-à-dire que la Chine menait une offensive diplomatique depuis longtemps en Afrique. Elle profite de cette crise pour l'accentuer et apparaître comme le premier fournisseur d'aide sanitaire à l'Afrique. Donc là, elle reste aussi sur la continuité de sa politique. Cette crise aussi doit nous conduire quand même à nous interroger sur cette interconnexion économique entre l'Afrique et l'Extrême-Orient et surtout sur ses conséquences concernant les écosystèmes africains. Parce que pour avoir travaillé un peu sur la question du braconnage, le pangolin était devenu ces dernières années un des principaux animaux braconnés pour être envoyés vers l'Extrême-Orient. Et on connaît maintenant le lien qui est dû au pangolin et à cette épidémie. Et par conséquent, on voit que la destruction des écosystèmes africains, justement par la demande asiatique, en quelque sorte, là aussi a créé une interconnexion. Et c'est cette interconnexion mondialisée, qui après, évidemment, est partie vers l'Europe, qui doit nous interroger et qui nous montre que, justement, on fait tous partie de la même planète et que ce qui se passe d'un côté du monde a des répercussions de l'autre côté. Et c'est pour ça que, évidemment, bon, on voit, comme disait Serge Mikhaïlov, l'émergence de discours populaires xénophobes. En Afrique, ils disent le coronavirus est la maladie des Chinois et des Blancs. Il faut rappeler la genèse mondialisée, si je puis dire, de cette épidémie pour que tout le monde comprenne qu'on est tous sur le même bateau.
Merci Thierry Vercoulon. Je rappelle que vous êtes coordinateur de l'Observatoire pour l'Afrique centrale et australe de l'Institut français des relations internationales. Et Serge Mikhaïlov, chercheur associé à l'IRIS et auteur, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de Afrikanistan. L'Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues? Point d'interrogation. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Tania Tsikounas et Nathalie Laporte. Prenez soin de vous.
Musique du monde,